Arnaud Banos est directeur de recherche au CNRS et détaché auprès du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Il est également officier de réserve dans la Marine nationale et instructeur en sauvetage de masse auprès des équipages de la Marine déployés en Manche, mer du Nord. Il forme ses équipages de tous les moyens de l'État déployés dans cette zone. Il est également sauveteur à bord de bateaux d'ONG depuis 2019. Le 7 août 2023, il est parti avec le bateau CI-4 de l'ONG allemande CI en tant que chef de mission en Méditerranée centrale.
Salut la radio, salut les gens, ici Arnaud Banos en direct du CI-4, le navire de sauvetage de l'ONG allemande CI. Nous en sommes au deuxième jour à bord, l'équipage est au complet maintenant. Nous avons 26 membres d'équipage de 10 nationalités différentes. Nous avons des Français, des Allemands, des Espagnols, des Anglais, des Suisses, des gens du Ghana, du Nigeria, d'Afrique du Sud, de Nouvelle-Zélande et de Croatie. C'est une véritable arche de Noé. C'est fabuleux, super ambiance à bord, tout le monde est très motivé, on apprend à se connaître, on travaille beaucoup d'entraînement en permanence, beaucoup de formation, de répétition pour être opérationnel assez rapidement avant le départ dans les jours qui viennent. Il fait très très chaud en Espagne bien sûr, nous sommes à Burriana, au sud de Valencia. La nuit c'est infernal, il fait 30 degrés dans les cabines, même vers 3h du matin. Donc évidemment en normal, mais tout le monde s'accroche. L'actualité est très très chargée sur zone, évidemment énormément de départs depuis la Tunisie, beaucoup d'opérations de sauvetage menées par les ONG sur place et les gardes-côtes italiens au sud-ouest de Lampedusa. Il y a eu beaucoup de naufrages et beaucoup de morts ces dernières semaines et ces derniers mois, mais également au départ de la Libye. Beaucoup de départs et moins de bateaux de sauvetage pour le coup présents dans cette zone assez éloignée. L'équipage est motivé, déterminé. On se prépare pour aller au charbon sur zone. Voilà. Je vous tiendrai informé de la suite des événements avec grand plaisir. Et je vous dis à bientôt.
Selon SOS Méditerranée, au 9 août 2023, 22 063 personnes ont péri en Méditerranée centrale depuis 2014. Ce chiffre est basé sur les corps retrouvés et les disparitions déclarées. Mais la majorité des personnes qui meurent en Méditerranée disparaissent sans laisser de traces, ce qui fait de ce chiffre une représentation minime de ce qui se passe réellement. Ces personnes, ce sont des hommes, des femmes, des enfants qui tentent de traverser la Méditerranée dans des embarcations précaires. Ces embarcations sont dans la majeure partie des cas surchargées et ne conviennent pas à une telle traversée. Il y a 300 à 400 km entre l'ouest de Tripoli en Libye et l'île de Lampedusa en Italie. Et pour celles et ceux qui partent de l'est de la Libye, cela représente plus de 800 km de traversée. La route méditerranéenne est la route maritime la plus mortelle au monde.
Bonjour les amis de la radio, ici Arnaud Banos en direct du navire CI-4 de l'ONG allemande CI. Nous sommes samedi 12 août. Nous avons appareillé ce matin à l'issue de 5 jours de préparation très intense dans le port de Burriana en Espagne, au sud de Valencia. C'est toujours la course pour préparer complètement un bateau et un équipage à ce moment toujours à la fois très chargé en émotions et puis mélange un peu d'excitation, de stress, d'angoisse et puis de soulagement aussi de pouvoir partir. Donc là ce matin les conditions de mer sont parfaites, la mer est très calme. On progresse à vitesse de croisière de 8 nœuds. ce qui est plutôt pas mal pour le CI-4. Notre chef ingénieur a fait des miracles sur les moteurs principaux, donc il nous a fait gagner presque 2 nœuds de vitesse. Et on reprend les entraînements là à partir de maintenant. Voilà, on va s'entraîner toute l'après-midi, et puis demain toute la journée, et ainsi de suite. Pour l'instant, notre route, il est prévu qu'on aille dans la zone SAR libyenne. On verra où exactement le moment venu, mais donc, voilà, en condition de navigation actuelle, on peut s'attendre à être sur zone dans plusieurs jours, un peu moins d'une semaine. L'objectif, c'est de s'entraîner au maximum pendant tout ce laps de temps, tout en continuant à avancer, de manière à ce que l'équipage soit complètement prêt. Il y a encore beaucoup de choses à voir. La vie sur un bateau, c'est très 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 technique, c'est très rythmé. Un bateau doit avancer 24 heures sur 24, jour et nuit. Il doit toujours y avoir des personnes qui veillent, qui travaillent. Donc là, la vie d'équipage a changé déjà radicalement par rapport à ce qu'elle était lorsqu'on était à terre. Nous n'aurons plus aucun moment de réunion collective jusqu'à ce que nous soyons dans un autre port. Voilà, il y aura toujours quelqu'un en salle des machines et toujours quelqu'un sur le pont, au minimum, en passerelle, au minimum. Et puis lorsqu'on sera dans la zone SAR, il y aura toujours des gens en train de mener la veille aux jumelles, ou des gens en train de s'occuper des personnes rescapées. Voilà, donc on fait évoluer les manières de travailler de façon à pouvoir s'adapter à ces contraintes-là. Jusqu'ici, tout va bien, le moral est plutôt très bon, l'équipage est extrêmement motivé. L'objectif, c'est de les préparer progressivement des choses les plus basiques, élémentaires, qui sont vraiment rythmées autour des questions de sécurité. L'idée étant évidemment d'éviter de se blesser ou d'abîmer du matériel avant d'arriver sur zone, et progressivement de monter en compétence sur les aspects les plus pointus et les plus critiques d'un sauvetage, évidemment en travaillant sur des situations dans lesquelles nous serons confrontés à de nombreuses personnes à l'eau, avec de nombreux cas médicaux urgents à traiter en parallèle. Voilà, donc c'est tout ça que nous avons en tête, et donc évidemment mon travail à moi, c'est de faire en sorte que tout aille dans le bon sens, que tout le monde soit formé correctement pour le moment crucial du premier sauvetage. Voilà, à partir d'aujourd'hui, ça sera plus difficile pour moi d'être connecté, mais j'essaierai quand même d'envoyer des liens, des petites infos régulièrement. Et puis je remercie évidemment toutes celles et ceux qui écoutent ce message. Quand on part en mission comme ça, on a vraiment l'impression d'être seul au monde, ce qui est d'ailleurs assez le cas, hein, puisqu'on a très peu de communication extérieure. Et donc, c'est toujours extrêmement réconfortant d'imaginer que quelqu'un, quelque part, écoute ce qu'on a à dire. Voilà, donc je vous remercie pour ça. Et je vous dis au revoir, à bientôt.
En 1979, une convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritime est adoptée. À cette occasion, l'OMI, l'Organisation Maritime Internationale, a divisé les océans du monde en 13 régions de recherche et de sauvetage, et, dans chacune d'elles, les pays ont délimité leurs zones de responsabilité, les zones SAR, Search and Rescue. Modifiée, révisée, cette convention est entrée en vigueur dans sa forme actuelle en janvier 2000. Elle stipule que les différents états côtiers doivent assurer la prise en charge et la coordination des secours en mer et doivent trouver un lieu sûr où débarquer les rescapés. Mais dans la réalité, c'est plus compliqué. Durant cette mission, le CI-4 va traverser les zones SAR italiennes, maltaises et tunisiennes et concentrer ses recherches dans la zone SAR libyenne. Cette zone existe depuis 2018 et l'autorité a donc été transférée aux gardes-côtes du pays. Seulement, les autorités libyennes ne respectent pas leurs engagements et laissent les rescapés se noyer ou les ramènent en utilisant la force et la violence. L'Union européenne elle-même considère que la Libye n'est pas un lieu de débarquement sûr, mais en même temps subventionne le pays afin qu'il empêche les personnes de partir. Du côté de Malte, le pays ne respecte pas non plus ses obligations en ne répondant jamais aux appels de détresse dans sa zone SAR. Dans ce contexte, ce sont les différents bateaux des ONG présents dans la zone qui collaborent pour repérer et secourir les embarcations en détresse. Et les opérations se compliquent régulièrement à cause des gardes-côtes libyens qui sont armés, dangereux et très agressifs.
Nous sommes le mardi 15 août. Bonjour les amis de la radio, ici Arnaud Banos en direct du CI-4, navire de l'ONG CI en route pour la zone SAR libyenne. Nous en sommes au quatrième jour de navigation. Nous sommes dans la zone SAR tunisienne, nous approchons de l'île de Pantelleria en Italie. Et nous pensons atteindre Lampedusa demain matin. À partir de là, les choses vont commencer à devenir plus difficiles, bien sûr, puisque nous arrivons dans la zone SAR, toujours la zone SAR italienne, mais qui est très exposée aux traversées. Et puis ensuite, nous continuerons notre chemin. Zone SAR maltaise, puis libyenne, voilà, sauf si nous avons évidemment des sauvetages avant. Donc ça fait déjà 8 jours que l'équipage travaille. Nous n'avons pas pris de jour de repos, bien sûr, on n'a pas le temps. Nous avons encore une grosse journée d'entraînement aujourd'hui. Mais de manière générale, je considère que nous sommes complètement prêts pour cette mission. Voilà, un très bon équipage. Et voilà, donc le dernier jour avant le début des opérations, c'est toujours un jour un peu spécial parce que l'équipage est un peu fatigué, il fait très chaud ici, et puis parce que ça y est, on rentre dans le dur là, donc c'est toujours un peu spécial comme ambiance, mais l'équipage est extrêmement motivé et extrêmement déterminé à faire ce qui doit être fait. Voilà, donc évidemment tout le monde croise les doigts pour que les choses se passent bien et qu'on ne soit pas confronté à des choses trop difficiles. Mais on tient bon. Allez, je vous salue de la zone SAR. À bientôt.
Pour l'ONG CI, les objectifs sont clairs. Tout d'abord, la recherche. Les bateaux utilisés pour la traversée sont inadéquats et il n'y a pas ou peu de chances de survie. Ensuite, c'est le sauvetage. Il faut aller au contact des personnes secourues, leur distribuer des gilets de sauvetage et les évacuer. Vient ensuite le soin, en leur fournissant de la nourriture, de l'eau et des soins médicaux. Enfin, c'est la mise en sécurité. Ces personnes ont besoin d'un refuge sûr.
août 2023. Bonjour les amis de la radio, ici Arnaud Banos, chef de mission à bord du navire CI-4 de l'ONG CI. Cinquième jour de navigation, ce matin, 7h du matin. J'ai été informé par l'ONG Alarm Faute de la présence d'un bateau en détresse au nord de Benghazi, donc dans l'est de la Libye, à 20 000 nautiques à peu près de la zone SAR maltaise. Il s'agit d'un bateau en détresse qui dérive, et donc il est en panne moteur, avec 25 personnes à bord, dont 5 ou 6 enfants. Voilà, donc cette zone-là évidemment est une zone complètement désertée, hein, c'est une zone immense dans laquelle il y a très peu de navires et aucun navire de sauvetage de manière générale. Nous avons décidé de modifier notre route de façon à essayer de porter secours à cette embarcation. Et donc depuis ce matin, 7h, nous fonçons avec notre vitesse maximum vers la dernière position connue de cette embarcation. Donc la distance à parcourir au total, c'est 200 000 nautiques, à peu près 20 heures de navigation. Nous espérons arriver sur zone demain matin au lever du soleil. Avec un peu de chance, nous bénéficierons aussi de l'aide de l'ONG Sea-Watch et de son avion Seabird qui nous aidera à quadriller la zone. Voilà, donc beaucoup de choses peuvent se passer pendant la nuit, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. A priori, le bateau est sur l'eau depuis au moins 4 jours maintenant. Voilà, donc on est prêt pour toute éventualité. Ça va pas être une opération simple, ne serait-ce que déjà que de retrouver l'embarcation, dans la mesure où nous n'avons plus aucune information concernant sa localisation depuis 7h ce matin. Voilà, je vous tiendrai au courant, à bientôt.
La décision de quitter le pays d'origine relève de raisons complexes liées au contexte politique, socio-économique et sécuritaire du pays, de même qu'à la situation familiale. Pour certains, partir est l'unique chance de survie face à la guerre, aux persécutions ou à la violence dans leur pays ou dans leur famille. D'autres ont choisi de partir ou n'ont eu d'autre choix que de partir, dans le but de trouver un emploi pour subvenir à leurs propres besoins ou aux besoins de leur famille. Enfin, certains quittent leur pays en quête d'une éducation ou simplement d'un meilleur avenir. Certains rescapés n'avaient pas forcément l'Europe pour destination finale en quittant leur pays. Lorsqu'ils entreprennent leur périple, leur destination n'est pas nécessairement déterminée à l'avance et peut évoluer en chemin. Prendre la mer sur une embarcation de fortune a constitué pour nombre d'entre eux la seule échappatoire possible à ce que les naufragés nomment l'enfer libyen. Détention arbitraire, châtiment corporel, extorsion, travail forcé et exploitation sexuelle entre autres. Face à ces conditions de vie inhumaines, beaucoup n'ont d'autre choix que de prendre la mer, quel que soit le coût de la traversée et en dépit du risque d'y perdre la vie.
Bonjour les amis de la radio, ici Arnaud Banos, nous sommes le 22 août 2023 en direct du navire CI-4 de l'ONG CI. Nous sommes devant le port de Salerno en Italie. Nous nous apprêtons à entrer dans le port pour débarquer nos 114 rescapés à l'issue d'une mission de sauvetage difficile dans la zone SAR libyenne et maltaise. 72 heures de recherche ininterrompue pour 4 bateaux. Nous en avons trouvé 3, dont le dernier en très mauvaise situation. Ces 3 bateaux étaient en mer depuis plus de 6 jours, dont 2 jours en panne d'essence, donc à la dérive, sans avoir de quoi boire ni manger. Ils étaient partis de l'est de la Libye, certainement Benghazi, donc une route extrêmement longue pour rejoindre l'Europe, et ils n'avaient aucune chance de l'atteindre puisqu'ils sont tombés en panne à moins de la moitié de leur parcours. Voilà, les 2 premiers sauvetages se sont plutôt bien passés. Le dernier, nous avions 4 personnes inconscientes à bord que nous avons réussi à embarquer rapidement. Et d'après notre médecin, leur survie s'est jouée à 1 ou 2 heures pour 2 d'entre eux et 10-20 minutes pour les 2 autres. Voilà, maintenant ils vont bien. L'équipe médicale a réussi à les stabiliser. Et voilà, donc c'était extrêmement éprouvant, mais en même temps, l'équipage est extrêmement heureux d'avoir réussi à les trouver à temps. Voilà, je vous tiens informé de la suite des opérations. Prenez soin de vous.
Les opérations menées par les ONG s'inscrivent dans le cadre légal des opérations de sauvetage et respectent le droit maritime international et ses principes. SOS Méditerranée nous en propose un résumé. Obligation de prêter assistance. Les capitaines et les États ont l'obligation de prêter assistance sans délai à quiconque est en détresse en mer. Secourir indépendamment de la nationalité, du statut ou des circonstances. L'obligation de prêter assistance s'applique quelle que soit la nationalité et le statut des personnes en détresse ou les circonstances dans lesquelles elles sont retrouvées. Humanité. À bord du navire, après un sauvetage, la dignité des survivants doit être respectée et leurs besoins immédiats satisfaits. Le débarquement. Les survivants doivent être débarqués dans un lieu sûr où leur sécurité n'est plus menacée, dès que raisonnablement possible, et avec une déviation minimum par rapport au parcours initialement prévu par le navire. Mise en sécurité dans un lieu sûr, dans un endroit où les opérations de sauvetage sont considérées comme terminées. C'est un lieu où la vie des survivants n'est plus menacée, où leurs besoins élémentaires peuvent être satisfaits. Nourriture, abri et soins médicaux. Liberté de navigation en haute mer. Les navires de chaque État ont le droit de naviguer en haute mer.
Bonsoir les amis de la radio, nous sommes le mercredi 23 août 2023, ici Arnaud Banos en direct du navire CI4 de l'ONG CI à Salerno en Italie. Nous avons débarqué nos 114 rescapés hier matin et depuis nous sommes détenus par l'Italie pour une durée de 20 jours. Donc le bateau ne peut plus repartir dans la zone SAR pour faire des sauvetages. Nous sommes le troisième bateau à avoir été arrêté de cette manière par l'Italie cette semaine, à peu près tous pour les mêmes raisons, c'est-à-dire nous avons réalisé plusieurs sauvetages. Les nouvelles lois italiennes imposent que les bateaux des ONG rentrent directement en Italie après un premier sauvetage, quel que soit le nombre de bateaux en détresse à proximité des bateaux. Évidemment, c'est inacceptable. Dans notre cas, comme je vous l'ai déjà expliqué, nous étions à la recherche de 3 embarcations et ça s'est vraiment joué à quelques heures pour plusieurs personnes. Donc si nous étions partis à l'issue du premier sauvetage, très certainement des dizaines de personnes seraient mortes. Voilà, nous étions le seul bateau sur zone. Donc, comme toujours, évidemment, CI fait le choix de la vie. Et donc, nous avons continué à chercher. Nous les avons trouvés, nous les avons sauvés, nous les avons ramenés. Voilà, l'essentiel est fait. Évidemment, l'équipage est en colère. Nous étions prêts à repartir pour une autre rotation. Il y a beaucoup de monde sur l'eau en ce moment. C'est catastrophique. Voilà, mais nous sommes empêchés de le faire par l'Italie. Voilà, je vous remercie sincèrement du fond du cœur pour avoir écouté ces petits moments de la Méditerranée centrale. Et je vous dis peut-être à bientôt sur une prochaine mission.
Arnaud, bonjour à toi. Ça fait une quinzaine de jours que tu es revenu de cette mission. Donc déjà, la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu vas ?
Bonjour Maëva, je te remercie de poser cette question. De manière générale, ça va bien, je suis en forme, j'ai repris le travail, j'ai repris toutes mes activités à fond, mais, je dors très peu la nuit, beaucoup d'insomnie, et puis très clairement, mon cerveau et mon cœur sont toujours en Méditerranée centrale, voilà, mais c'est un peu le processus normal pendant le premier mois.
D'accord, tu y penses beaucoup.
Ah oui, bah, j'ai beaucoup de flashbacks, dès que mes idées un peu se mettent à divaguer, dans 100% des cas, je me retrouve là-bas sur le bateau, je me retrouve sur l'eau avec tous ces gens qui traversent, on ne sait pas où ils sont. Voilà, donc ça c'est un peu un processus normal à l'issue d'une mission de cette nature. L'ordre de grandeur c'est un mois. Si ça perdure au-delà d'un mois, c'est que très sans doute il y a un symptôme de stress post-traumatique qui s'est développé.
Et donc là, il faut envisager sérieusement de traiter le problème à la racine. Voilà.
J'aimerais revenir avec toi sur un sujet dont tu nous as parlé au début de la mission, à savoir l'entraînement de l'équipe. Je voulais savoir quel est cet entraînement en fait, en quoi ça consiste et comment vous vous préparez, enfin une fois que vous êtes sur le bateau, quoi, les premiers jours.
Alors la première chose à savoir, c'est qu'un équipage de cette nature-là est divisé en départements. Donc moi je suis responsable de l'ensemble de la mission et de tout ce qui se passe, y compris la formation, mais j'ai des interlocuteurs privilégiés au sein de chacun des départements, donc c'est les chefs de département. Donc on a un département maritime, qui est composé évidemment du capitaine, des officiers navigants, des ingénieurs, etc. On a un département médical, piloté par le médecin. On a un département sur la prise en charge des rescapés à bord, qui est là aussi est piloté par quelqu'un qui est en charge. On a la partie cuisine, alimentation. Voilà, donc ça c'est un peu le grand principe. Et puis on a aussi des journalistes à bord qui documentent tout. Et donc le principe, c'est que... on a toute une série de formations qui sont liées au fonctionnement de chacun de ces départements. Par exemple, il est obligatoire qu'on ait des formations sécurité, incendie, naufrage de navire, pris en charge évidemment par l'équipe nautique, formation premier secours, prise en charge de nombreuses victimes, ça c'est piloté par l'équipe médicale. Voilà, ainsi de suite. Donc on peut toutes les enchaîner, bien sûr. Et puis on a aussi un département donc sauveteur. Qui sont les 6 personnes qui interviennent sur les 2 bateaux, sur les 2 embarcations rapides. Donc ça, c'est la partie la plus lourde en termes de formation, parce qu'évidemment, ça suppose d'être sur l'eau, ça suppose d'activer les 2 moyens sur l'eau, plus tout le matériel de flottabilité de masse qu'on utilise. Et donc, l'idée, c'est que pendant la semaine précédant le départ sur zone, et puis ensuite les 4 jours de navigation jusqu'à la zone SAR, on s'entraîne quasiment toute la journée, en alternant entre ces différents départements, de façon à être complètement opérationnel à partir du moment où on arrive au sud de Lampedusa. À partir de ce moment-là, on met fin à tous les entraînements et on passe en mode SAR, Search and Rescue. Et là, l'objectif, c'est de détecter de possibles embarcations sur l'eau et puis voilà, de leur porter secours si nécessaire.
Du coup, les entraînements, c'est des entraînements de sauvetage, c'est des entraînements physiques, c'est des entraînements. Enfin, on se met dans des conditions réelles. Enfin, qu'est-ce que vous faites?
Oui, alors il y a beaucoup d'entraînements. Il y a une partie théorique, évidemment, hein, puisque tout on ne connaît pas évidemment tout ce principe. Le sauvetage de masse, c'est quand même quelque chose de très très spécifique à la Méditerranée centrale. Et les gens qui n'ont jamais fait une mission Méditerranée centrale ne connaissent pas du tout les procédures. Donc, on a une partie théorique toujours. On a beaucoup de mise en application technique, pratique, de façon à développer tous les réflexes, ne serait-ce que par exemple la mise à l'eau d'une embarcation rapide depuis un cargo qui avance à 7 nœuds, bon, dans des conditions de mer qui sont pas toujours faciles. Bon, mais ça s'apprend évidemment, ça s'entretient. Et puis ensuite, on met en place des simulations. Donc, par exemple, pour la partie sauvetage, on a fait une simulation juste avant de partir de Boreana où j'ai pris tous les membres d'équipage, on les a tous mis à l'eau au large de la plage. Et puis les 2 embarcations rapides ont dû procéder à un sauvetage de nombreuses personnes à l'eau sur la base de notre équipage qui était dans l'eau. On fait la même chose sur le pont. On fait des simulations d'embarquement, où les membres d'équipage qui ne sont pas inclus dans l'équipe de prise en charge des rescapés jouent les rescapés de façon à pouvoir tester le fonctionnement là sur le pont. Même chose pour la cuisine. Un des derniers jours avant d'arriver sur zone, nos 2 cuisinières ont pu tester la cuisine pour les rescapés. Donc on a une cuisine spéciale qui permet de faire du couscous et du riz, et donc elles ont pu tester un peu tout l'équipement et puis dimensionner un peu la façon dont ça allait fonctionner. Et donc on a mangé, parce qu'à partir du moment où on a des gens à bord, on mange tous la même chose, voilà. Donc c'est un peu un mélange de tout ça, et ça s'arrête jamais.
Et à quel moment tu sais que l'équipage est prêt?
Alors, ça, c'est une excellente question. À croire que tu pourras embarquer, parce que c'est effectivement une grande responsabilité du chef de mission ou de la chef de mission. Le principe, c'est que les équipiers considèrent qu'ils sont jamais prêts, parce que personne ne peut être prêt pour ce genre de mission, bien sûr, hein, sauf à en avoir fait énormément avant et puis vraiment connaître ses fondamentaux sur le bout des doigts. Et une des grandes responsabilités du chef de mission, c'est de déterminer à quel moment l'équipage est prêt pour la mission qui nous attend, sachant qu'il y a une autre contrainte, évidemment, c'est d'être présent sur l'eau, parce que tant que les bateaux d'ONG ne sont pas présents sur l'eau, ben, personne ne réalise les sauvetages. Et cet été, il y a eu énormément de traversées. Je ne sais pas si tu as vu, mais sur les deux derniers jours, là, il y a eu plus de 7000 personnes qui ont débarqué à Lampedusa. Donc ça fait à peu près une centaine d'embarcations. La route tunisienne a été complètement en feu tout l'été. On est sur le même niveau de traversée que 2016. 2016, c'était quand même colossal, hein, le nombre de traversées. Donc là, c'est vraiment des conditions très difficiles. Évidemment, sans bateau de sauvetage, là, c'est des milliers de morts. Donc il faut toujours peser un peu trouver le bon compromis entre avoir un équipage suffisamment prêt et préparé pour être capable d'affronter la plupart des situations qu'on va rencontrer. Et puis en même temps, ben, cette exigence d'aller sur zone quand même assez rapidement. Et dans notre cas, une fois de plus, ça s'est vérifié, puisque les gens qu'on a sauvés sur la dernière embarcation, on avait 4 personnes inconscientes, profondément inconscientes depuis plus de 24 heures. Hein. Ces personnes-là étaient considérées comme mortes par leurs amis qui étaient dans l'embarcation avec elles. Et pour ces 4 personnes-là, ça s'est joué à moins d'une heure. C'est-à-dire qu'on aurait pris du retard sur l'ensemble de la chaîne. On aurait trouvé 4 personnes décédées au lieu de 4 personnes qu'on a réussi à sauver grâce à notre équipe médicale. Donc c'est vraiment, cette balance, elle est toujours très très importante, évidemment, et c'est une grande responsabilité.
Au niveau de la mission, quel a été votre parcours? Quelle zone SAR vous avez traversé? Alors, tu nous as dit qu'au début, à l'entraînement, vous étiez sur les côtes espagnoles. Qu'est-ce que vous avez traversé? Oui. Jusqu'où vous êtes allé?
Alors, une fois qu'on part de l'Espagne, là, c'est relativement facile. On rejoint, en gros, on va jusqu'au nord de Lampedusa, entre Lampedusa et Malte. Donc là, on traverse, on est dans la zone SAR espagnole, puis on arrive dans la zone SAR tunisienne. Ensuite, on descend plein sud. Donc, on arrive dans la zone italienne. On arrive dans la zone SAR maltaise, qu'on traverse, jusqu'à atteindre la zone SAR libyenne. Et donc là, notre objectif, c'était ce qu'on appelle SAR 3. SAR 3, c'est la plus grande zone SAR libyenne, qui est très à l'est de Tripoli et qui s'étend grosso modo de Al-Qums, à l'est de Tripoli, jusqu'à Tobrouk, quasiment la frontière égyptienne. Donc c'est une zone immense, avec aucun moyen de sauvetage là-dedans. C'est dramatique, il n'y a aucun bateau et les embarcations font des centaines de kilomètres pour traverser cette zone et disparaissent littéralement. On ne sait pas du tout qui disparaît dans cette zone, c'est un vrai trou noir. Donc là, voilà, c'était notre destination.
Au final, comment s'est déroulée cette mission? On t'a suivi un petit peu à travers tes journaux de bord, mais combien d'embarcations est-ce que vous avez, vous êtes allé secourir, et combien de personnes est-ce que vous avez ramené?
Alors c'est une mission que je considère comme étant réussi, parce qu'on a réussi à trouver et sauver 114 personnes qui étaient sur 3 embarcations distinctes. Ces 3 embarcations étaient parties en même temps de Benghazi, donc c'était des gens qui se connaissaient. Elles se sont perdues de vue en mer, elles sont toutes tombées en panne d'essence à peu près au milieu de la traversée, donc elles étaient encore à des centaines de kilomètres des côtes européennes, donc elles n'avaient aucune chance évidemment de traverser. Au milieu de nulle part, on les a trouvés à 24 heures d'intervalle et donc après plusieurs jours de mer pour chacune de ces embarcations et puis plusieurs jours de dérive en mer sans avoir de quoi boire ni de quoi manger, d'où la présence dans la dernière de ces 4 personnes considérées comme mortes par les autres passagers. Et donc c'était extraordinaire de pouvoir retrouver ces 3 embarcations, de pouvoir sauver tout le monde. Ça c'était complètement incroyable, complètement improbable. Malheureusement, nous avions également 2 autres embarcations en vue que nous avons cherché la première longtemps avec 25 personnes à bord, dont 5 enfants, que nous n'avons pas réussi à trouver et que nous avons dû abandonner. Et puis, nous avions également connaissance d'une autre embarcation avec 105 personnes à bord, dont une quarantaine d'enfants et des blessés par balle, mais qui était encore plus à l'est. De la zone, on était à 200 000 nautiques à peu près, et donc notre objectif, c'était une fois notre 3e sauvetage réalisé, d'aller leur porter secours. Malheureusement, la santé de nos rescapés sur le dernier sauvetage était vraiment trop fragile. On était dans l'impossibilité de mettre en place une évacuation sanitaire parce qu'on était très loin des côtes maltaises et italiennes. Et donc là, je ne pouvais pas me permettre de rajouter 4 jours de navigation à ces gens-là pour aller chercher une embarcation en détresse dont on avait perdu toute trace depuis presque 48 heures. Voilà, donc c'est une mission qui est réussie d'un certain côté, mais qui reste dramatique, évidemment, d'un autre, hein, puisqu'à chaque fois, on est confronté à des embarcations qu'on ne retrouve pas et dont l'issue est certaine, hein, c'est-à-dire que tous ces gens-là sont morts, tout seuls, au milieu de nulle part.
Comment allaient les personnes que vous avez secourues?
Alors, ça dépendait vraiment de l'embarcation dans laquelle elles étaient. La première embarcation qu'on a trouvée, les gens étaient plutôt en forme. Dès le lendemain matin, ils étaient sur le pont à se laver, à se raser la tête. Et donc, voilà, ça c'était une situation assez classique, standard. La deuxième embarcation, ils avaient 24 heures de mer en plus. En plein soleil, il faisait extrêmement chaud là au large de la Libye, donc ils étaient quand même beaucoup plus fatigués, beaucoup plus déshydratés, mais ils s'en sont plutôt bien remis. Et puis la dernière embarcation, alors là par contre c'était dramatique, hein, parce que eux ils ont passé 2 jours de plus en mer que la première embarcation, dont presque 30 heures avec ces 4 cadavres. Ils étaient entassés avec ces 4 cadavres, donc psychologiquement ils étaient tous extrêmement faibles, physiquement aussi bien sûr. Quand on les a récupérés sur le pont, là, ils étaient tous en pleurs. C'était vraiment une scène de guerre, quoi. C'était un sauvetage difficile. Mais finalement, au bout de 3 jours, la vie a repris. Et donc, on a pu organiser une séance de sport lors de notre remontée vers l'Italie. Puis on avait 3 jours de navigation pour aller jusqu'à Salerno. Donc, j'ai organisé une petite séance de sport là pour tout le monde. Et les plus jeunes s'en sont vraiment donnés à cœur joie. Donc c'était vraiment chouette de voir tous ces gens qui étaient partis pour mourir et puis qui, hélas, étaient vraiment vivants et pleins de vie la veille de notre arrivée en Italie. Donc ça, c'est vraiment des beaux moments.
Oui, parce que c'est ça aussi que vous leur proposez durant ces trajets, c'est de revenir, entre guillemets, à une vie un peu classique, quoi, faire du sport, manger, se laver, des choses qui nous paraissent banales mais qui sont essentielles.
Oui, alors absolument, c'est des choses qui nous paraissent banales, mais c'est ce qu'on appelle les besoins fondamentaux. Et les besoins fondamentaux, si vous allez chercher du côté de l'Organisation mondiale de la santé ou des grands principes de l'ONU, c'est ce qui caractérise aussi la liberté humaine. C'est-à-dire priver quelqu'un de ses besoins fondamentaux, on est vraiment là sur la violation des droits de l'homme. Et donc permettre à quelqu'un de manger, de se laver, de dormir en sécurité, ça fait partie des besoins fondamentaux. Donc c'est aussi ce que font les ONG, c'est créer une espèce de bulle qui permet à tous ces gens-là de retrouver ces besoins fondamentaux dont ils sont complètement privés, évidemment, quand ils sont en Libye, également de restaurer leur dignité et puis voilà, quelque part un petit peu leur estime d'eux-mêmes, hein, puisque ce sont des gens qui sont très maltraités, traités comme des esclaves, pour certains depuis plusieurs années, bien sûr. Et voilà, donc il y a tout ce travail qui est mis en place. Et puis le sport, ça fait partie de cette volonté un petit peu là de les amener à déployer leurs ailes, hein, sachant que c'est compliqué pour beaucoup d'entre eux, mais c'est aussi une façon de gérer l'énergie, parce que très rapidement, notamment les plus jeunes, se retrouvent toute la journée sur un bateau à attendre. Et évidemment, ça, c'est quelque chose qui est difficile. On sait tout ce que c'est dans notre monde. Ils n'ont pas accès à leur téléphone, puisqu'on n'a pas de couverture réseau, donc ils n'ont accès à rien. Et donc ils attendent. Voilà. Et donc le sport, c'est une bonne façon aussi de décharger un peu toute cette énergie contenue, et puis de s'assurer que le soir venu, ils auront plus de facilité pour dormir, parce qu'évidemment, les nuits, là aussi, sont très longues pour des gens qui ne dorment pas.
Une fois que vous êtes arrivé en Italie, donc il y a une loi qui stipule que vous n'avez pas le droit de repartir. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette situation?
Oui, alors le nouveau décret italien est même plus compliqué que ça, parce que il précise qu'à partir du moment où on a effectué un sauvetage, on doit tout de suite revenir en Italie. Donc l'Italie nous donne un port de débarquement qui, contrairement aux années précédentes, n'est plus en Sicile, mais en Italie continentale, très au nord, donc à plusieurs jours de navigation. Et les bateaux des ONG ont interdiction de procéder à d'autres sauvetages sur le chemin. Donc par exemple, si jamais On les prévient qu'il y a une embarcation en train de couler quelque part autour d'eux, alors qu'ils sont déjà en train de retourner vers l'Italie. Ils ne peuvent pas s'arrêter pour sauver les gens, au risque de se voir attribuer une pénalité par le gouvernement italien. Voilà, donc c'est une loi qui est évidemment qui est complètement inacceptable pour les ONG, et puis qui est complètement à la fois en violation totale de toutes les conventions maritimes internationales, mais aussi considérée par la plupart des juristes italiens comme anticonstitutionnelle. Voilà, donc les ONG sont très contraintes par cette loi. Donc à partir du moment où l'Italie, donc un premier sauvetage est réalisé, un ou deux sauvetages, l'Italie donne un port de débarquement. La plupart des ONG cherchent à respecter évidemment cette contrainte pour éviter d'être pénalisées, en espérant qu'il n'y aura pas d'autres bateaux en détresse à proximité. Mais si ça arrive, évidemment, toutes les ONG sont amenées à violer cette règle-là. Donc c'est ce que nous avons fait. Si nous avions suivi ce nouveau décret italien, nous aurions dû rentrer en Italie à l'issue de notre premier sauvetage, donc avec 38 personnes à bord. Nous aurions dû renoncer aux deux autres embarcations en détresse dont nous avions connaissance et dont l'Italie avait elle-même connaissance. Et donc là, ça voulait dire 76 personnes mortes, en plus des 130 qu'on n'a pas réussi à trouver. Et donc 76 personnes mortes, alors que, en désobéissant à ce décret, bah, nous avons réussi à sauver ces 76 personnes. Voilà, donc ça montre un petit peu tout le caractère inhumain et complètement absurde de toutes ces lois-là, qui évidemment visent à maîtriser le flux migratoire qui arrive en Italie.
Dans quel état d'esprit tu es vis-à-vis de cette mission?
Alors c'était une mission très difficile, mais c'était une belle mission avec un équipage absolument remarquable, merveilleux équipage. Donc j'en garde d'excellents souvenirs. Je garde évidemment des souvenirs douloureux aussi, mais ça fait partie du job. Et puis définitivement, ma motivation est intacte. Je repars, c'est déjà dans les tuyaux. Je repars au mois d'août prochain en tant que chef de mission. Et puis d'ici là, je ressens le besoin de m'investir un peu plus dans la vie des ONG, puis sur le théâtre méditerranéen. Alors comme je ne pourrais pas repartir, je vais aussi participer à certaines missions en tant que directeur de mission, c'est-à-dire que je serai à terre. Et sur certaines missions, je serai joignable en permanence H24 pour pouvoir conseiller le ou la chef de mission et lui donner à la fois des informations auxquelles il ou elle n'a pas accès. Et puis pouvoir analyser le contexte et donner des conseils d'ordre juridique, pratique, organisationnel, etc. En temps réel. Donc c'est une tâche évidemment qui est assez compliquée parce que ça veut dire qu'on n'est pas sur l'eau et en même temps on doit pouvoir aider les gens qui sont sur l'eau. Mais c'est pour ça que ce sont souvent des anciens chefs de mission qui connaissent bien le contexte, qui assure ce rôle. Donc j'ai décidé de m'engager aussi à ce niveau-là. Et puis de toute façon, là, je continue à fond. Je repars à la Marine nationale demain pour former des nouveaux équipages de patrouilleurs de service public qui vont arriver sur zone dès la semaine prochaine. Voilà, sachant que l'été a été extrêmement chaud aussi en Manche-Mer du Nord. Il y a eu beaucoup beaucoup de sauvetages compliqués. Et puis il y a eu ce désastre au début août avec 6 morts et 10 disparus. Voilà, et ce sont les marins de la Marine nationale que j'ai formés qui ont réalisé ce sauvetage et qui ont sauvé un très très grand nombre de personnes qui étaient à l'eau et qui donc étaient en train de mourir. Voilà, donc ça s'arrête jamais sur tous les fronts.
Merci beaucoup, Arnaud. Est-ce que tu as un dernier mot pour les gens qui nous écoutent?
Et oui, j'ai un mot de remerciement parce que c'est difficile de comprendre ça quand on participe pas à ce genre d'aventure, mais les petits moments où j'ai réussi à enregistrer simplement ce que j'avais à vous dire, en sachant qu'il y aurait des gens qui l'écouteraient, ça c'était vraiment des bulles extraordinaires dans cette folie permanente que sont ces missions. Il faut vraiment imaginer des choses où on est tendu en permanence, psychologiquement, physiquement, ça s'arrête jamais, on dort très peu, le cerveau carbure à 2000 à l'heure. Et donc, chacun de ces moments a été un moment vraiment important pour moi. Voilà, donc je remercie toutes celles et ceux qui écouteront ces petits passages, ces petits témoignages. Et puis, je vous dis peut-être à bientôt pour de nouvelles aventures.
Ce reportage a été réalisé grâce à Arnaud Banos, chef de mission sur le CI4, en août 2023 pour l'ONG CI. Merci infiniment à lui et à toutes celles et ceux qui œuvrent en mer Méditerranée et placent l'humain en priorité. Pour en savoir plus sur les sauvetages et le contexte méditerranéen, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de sosméditerranée.fr.